c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et L'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé de ce lundi 9 mai, eh bien, il sera largement consacré à la sortie du film Les Folies Fermières de Jean-Pierre Améris, que l'on va recevoir dans une poignée de secondes. Le vrai créateur des Folies Fermières fera également une incursion dans cette émission. David Comet sera en ligne avec nous. Ça sera la petite surprise en plus de cette émission. Nous allons également recevoir Stéphanie Pareja aujourd'hui. L'interprète de Jeanne Carmin dans Plus belle la vie viendra nous parler de son rôle, mais également de son spectacle, de son One Woman Show qu'elle viendra jouer dans notre région, dans les Charentes, notamment à Angoulême le 27 et 28 mai prochain. Et puis on consacrera un deuxième coup de cœur cinéma cette semaine exceptionnelle à On sourit pour la photo. François Usan, le réalisateur, Anthony Lancré, le producteur, mais également les deux filles du film, Pascal Arbillot et Agnès Hurstel, seront donc avec nous pour parler de la sortie de ce très beau film de François Usan qui a obtenu, rappelez-vous, un très beau prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Alors on va tout de suite recevoir Jean-Pierre Améris. C'est notre premier coup de cœur ciné aujourd'hui.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Les Folies Fermières qui sort mercredi au cinéma, réalisé en plus avec un ami de la maison, un ami de l'émission, Jean-Pierre Améris, qui nous fait l'amitié d'être là pour chacun de ses projets. Bonjour Jean-Pierre et merci d'être là.
Bonjour, ça fait toujours plaisir de vous retrouver à chaque film.
Eh ben oui, c'est vrai. Et puis alors là, quel beau projet, franchement. Moi, j'ai pu le voir il y a quelques jours maintenant, un petit peu avant tout le monde. On est très ému, mais aussi c'est un film très joyeux. On y passe vraiment un bon moment. Et puis ce clin d'œil aussi, évidemment, à cette véritable histoire de David, agriculteur dans le Tarn, qui décide, pour sauver sa ferme, de monter un cabaret et vraiment aller contre vents et marées et de prendre cette décision qui va tout changer. Pour lui.
Dans mes films, j'ai toujours aimé hein, les rêveurs qui concrétisent leurs rêves, les gens dont on dit mais ils sont un peu fous ou quoi. Et en découvrant en janvier 2018 dans un reportage de France 3 régional, l'histoire de David Comet, ce jeune agriculteur qui en 2015, pour sauver sa ferme de la faillite, a monté un cabaret, j'ai su immédiatement qu'il y avait un film. Un coup de foudre pour une histoire vraie. Là, on peut vraiment parler de ça. Deux semaines après, j'étais chez lui, dans le Tarn, à Garrigues. Il m'a très bien reçu. J'ai rencontré ses parents. J'ai vu le spectacle qui était très beau, avec French Cancan et tout. Et puis, j'ai compris beaucoup de choses de toutes ces difficultés. En effet, comme on le sait, hein, les grandes difficultés des paysans, hein, 250 suicides par an, 27 fermes qui ferment par jour. Hein. Lui a connu ça, quoi. Hein. Il a été au bord de la faillite. Et il voulait absolument trouver une idée pour garder cette ferme qui lui vient de trois générations auparavant, son grand-père, que l'on voit dans le film, qui est joué d'ailleurs par Guy Marchand. Et pour lui, comment sauver ma ferme? C'est ce que j'ai aimé, quoi. C'est pas pour faire autre chose, c'est pour sauver ma ferme. Et il a eu cette idée, quoi, de monter le cabaret. Et évidemment, ça pouvait que me toucher, quoi, la rencontre de deux mondes si différents, les paysans et les artistes de cabaret de l'autre.
Sans faire de jeu de mots, c'est une folie, quelque part.
Je crois quand même qu'à un moment donné, les choses sont si difficiles dans notre société, et notamment, en effet, chez les agriculteurs, qu'à un moment donné, mais autant faire quelque chose qui peut sembler saugrenu, fantasque, c'est peut-être par la fantaisie qu'on pourra le mieux répondre au désespoir. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est une réponse au désespoir, au véritable désespoir des paysans, par la fantaisie et par le spectacle. Moi, c'est ce que je fais, hein, c'est ma vie, c'est le spectacle, c'est le cinéma. Et lui, avec le cabaret, c'est réunir les gens, faire venir les gens, les faire rêver, les faire rire. Et c'est merveilleux parce que ça redonne vie. C'est vraiment un film sur la renaissance. La ferme va renaître, la région va renaître, parce qu'il avait cette idée hein, que le spectacle est sur scène et dans l'assiette. Et dans l'assiette, c'est les produits des producteurs du coin, la viande, les légumes, le pain. Donc ça fait renaître toute une région. Moi, je serais heureux hein, que ça donne des idées à d'autres, pas forcément le cabaret, mais il faut trouver, les paysans doivent trouver quand même comment se diversifier pour relancer leur exploitation.
Et surtout pour survivre. Alors après, il a fallu évidemment composer ce casting de dingue, haut en couleur, avec Alban Ivanov en tête de proue. Alban, il est incroyable. Qu'est-ce qui t'a séduit en premier chez lui, chez Alban, pour interpréter justement le personnage de David ?
Dans mes films, j'ai toujours aimé les comiques, hein, Benoît Poulvorde, Bernard Campan et plein d'autres, hein, parce que on sait que de toute façon, quelqu'un qui sait faire rire, c'est émouvoir, quoi, parce qu'il a en lui forcément beaucoup de sensibilité. Alban, je l'avais repéré dans les très beaux films, hein, Le sens de la fête de Toledano Nakache, les films de Grand Corps Malade que j'adore, La vie scolaire et Passion, et j'avais senti en lui cette humanité, cette sensibilité. Je l'ai rencontré et ça l'a beaucoup touché, le fait que ce soit une histoire vraie et le fait qu'il puisse jouer un pays parce que toute sa famille du côté maternel est d'origine paysanne. Donc ça l'a vraiment enthousiasmé de jouer ça. Et il faut dire qu'il s'est beaucoup impliqué hein, dans la ferme dans laquelle on a tourné dans le Cantal. Il a mis la combinaison tout de suite et puis il a appris à traire, à nettoyer les mamelles des vaches. Il avait les pieds dans la bouse et il était fier de ça. Donc lui en David comme ça, un personnage... comme je les aime, hein, quand même assez réservé, assez timide, mais en même temps avec la ténacité des timides, hein, qui ne se laissent abattre par aucune moquerie. Et en face de lui, Sabrina Ouazani, pour laquelle j'ai écrit, j'avais tourné avec elle déjà un téléfilm, Illettré, avec Annie Cordy, et je savais que Sabrina est danseuse également, depuis l'adolescence, et dans ce rôle-là de danseuse qu'il rencontre dans un cabaret à laquelle il va demander de mettre en scène le spectacle, et de faire des numéros de danse, je savais qu'avec elle, c'est elle qui danserait. Elle a trois numéros de danse.
Tu me confirmes que tous ces numéro de bar, de danse et tout, elle a été doublée à aucun moment ?
À aucun moment, Sabrina Ouazani est doublée. Hein.
On le verra. Extraordinaire.
Elle est démente, hein. C'est une actrice démente, mais on en rêve quand on voit les actrices et les acteurs américains, on se dit, ils savent tout faire, hein, et c'est un peu moins souvent le cas en France. Là, on a la chance avec cette actrice, elle peut faire du drame, de la comédie, puis surtout, elle est danseuse. Et je l'avais vu faire justement à la télévision, déjà un numéro de tissu, hein, comme elle le fait là dans le film au début. Ensuite, elle fait du pole dance, donc elle s'y est entraînée pendant des mois, et enfin, du hip-hop. C'est vraiment une actrice merveilleuse, et j'avais en tête pour elle, voilà, c'est l'opposition, hein, c'est la carpe et le lapin, hein, lui, donc ce paysan un peu réservé, un peu timide, et elle, une fille comme je les aime bien, un peu comme Virginie et Fiera dans Une famille allouée, un peu grande gueule, aux limites vulgaires, mais moi, voilà, c'est des filles dans la vie qui me touchent beaucoup, parce qu'elles sont souvent plus fragiles qu'on ne croit.
Tu l'as pas épargnée, hein, tu as laissé les talons, j'espère qu'elle a pas eu trop froid quand même pendant le tournage, vous comprendrez en voyant, mais il est vrai qu'elle a pas été épargnée. Hein.
Il faut dire qu'en tournant avril-mai 2021 dans le Cantal à 1000 mètres, dans un coin sublime, que j'adore, hein, c'est des grands plateaux, moi, hein, je voulais presque faire un western hein, quand même. Hein. David, c'est un peu le cow-boy qui veut sauver son ranch, elle, c'est la fille de mauvaise vie, hein, qui va en même temps transformer la vie de tout le monde. Il y a un côté western et grand spectacle dans le film, mais on a eu très, très, très froid hein, quand même. Hein. Et c'est vrai que dans le film, j'ai un peu honte, hein, parce que je vois que toutes les actrices sont en petit chemisier, et nous, dans l'équipe, on était en doudoune hein, quand même, mais c'est l'injustice du cinéma.
Mais ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière la caméra, il y a les planqués. Hein.
Mais pour Sabrina, j'avais aussi en tête Marilyn Monroe, je sais pas si vous vous souvenez de ce film merveilleux, Bus Stop, hein, où elle fait justement une fille de petite vertu comme ça, qui vient de la ville, hein, et qui va rencontrer un paysan, Don Murray. Donc il y avait quand même cette idée-là, hein, d'un film, et c'est de la comédie, hein, je crois, et la joie naît de ça, hein, que chacun est dans son rôle, hein, il y a une petite part comme ça de comédia dell'arte, et c'est ce qui va sauver les gens, quoi, hein, c'est rencontre du monde paysan et du monde des artistes, les deux ayant, comme tout le monde dans la société, beaucoup d'a priori sur l'autre. Dans la famille de David Comet, ils étaient effondrés, quoi, ses parents, son grand-père, ils avaient honte, hein. Quand j'ai rencontré ses parents, il me disait, hein, mais nous on est content que David s'en soit sorti, mais le cabaret qui est à 100 mètres, on n'y va pas, nous on a honte, on est des paysans, on veut pas avoir des filles avec des plumes partout. Hein. Maintenant ils y vont, ça s'est arrangé.
T'es poli là, t'as vu pour les plumes. Hein.
Là je suis toujours bien élevé, hein. Mais c'est très important, mais finalement les artistes ont eux aussi quoi, des a priori sur les paysans, hein. C'est des gros lourds, ils connaissent rien à l'art, et montrer dans ce film que ça s'est fait et que ça se fait, quoi, hein. Que des gens venus d'horizons tellement différents vont ensemble faire quelque chose. Moi je trouve que c'est le plus important dans une société si dure qu'est la nôtre, de pouvoir montrer ça, et j'avais vraiment envie de transmettre ce message quand même joyeux, positif aux gens. L'important c'est pas tellement le but, hein. C'est le chemin, quoi. Et c'est pas tellement est-ce que ça va marcher, ce cabaret, ce qui va être rentable, l'important c'est de faire quelque chose et qui réanime, qui fait renaître tous les personnages.
Un film joyeux, lumineux, une belle histoire. Vous n'allez pas vous ennuyer. Franchement, vous allez passer 1h50. Merveilleuse en allant voir Les Folies Fermières. C'est mercredi au cinéma. On écoute la bande-annonce et on revient juste après avec toi, Jean-Pierre. On écoute.
Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2.
Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois?
Je sais pas.
Rien. Tu peux rien faire.
Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Bonnie Starlight.
Et on revient dans un instant avec Jean-Pierre Améris. Alors surtout, bougez pas à la suite de notre spécial des Folies Fermières. C'est juste après ça.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Voilà, retour sur notre spécial des Folies Fermières. C'est notre coup de cœur ciné, le nouveau film de Jean-Pierre Améris. Le choc d'une rencontre, effectivement, avec des personnages hauts en couleur aussi. Comment il a réagi, David Comet, quand il a vu le film la première fois? Est-ce que tu as pu déjà lui montrer fini?
Je lui ai montré fini, bien sûr. Hein. Il avait déjà lu le scénario, hein, donc il savait à quoi s'attendre. Il avait été épaté en lisant le scénario que j'ai même pu deviner des choses. Hein. Il disait, mais avec son accent du Tarn, hein, c'est étonnant. Jean-Pierre, je lui ai pas dit ça. Comment il a deviné? C'est tellement vrai. Donc, il s'est bien retrouvé dans l'histoire. Quand il a vu le film, il l'a trouvé très authentique. Il l'a vu 3 fois déjà avec sa femme, avec ses enfants. Ses parents vont le voir très bientôt. Et pour lui, voilà, c'est important parce que c'est un hommage quand même à ce qu'il a fait, quoi. Et puis c'est aussi un message. Il est très porteur de ce message pour les autres agriculteurs, mais finalement pour tout le monde, hein. Avoir de l'audace, quoi. Ne pas finalement rester dans son désespoir, puisque tout est dur, autant faire quelque chose et autant aller vers la joie. Mais c'est vrai qu'il donne l'exemple qu'il faut. Il faut concrétiser ses rêves, quoi. Il faut passer au réel. C'est difficile de passer au réel. C'est comme quand je fais un film, quand on fait un repas, quand on fait quoi que ce soit. On y perd des plumes, hein. Mais c'est ça qui est joyeux quand même, hein. C'est de rendre les choses réelles.
Quelle a été la scène pour toi la plus difficile ou la plus drôle à mettre en boîte, à tourner avec toute cette équipe de Joyeux de Drille?
La plus difficile, mais liée au climat, hein, parce que c'est tout le spectacle de la fin du film, hein, qui a lieu dehors, la nuit, au mois de mai, par 2 degrés. Là, c'était difficile. C'est 4 nuits de tournage.
Oui, c'était 5 glaces, quoi, carrément.
On était au mois de mai, il faisait vraiment froid et c'est drôle. La première nuit, on avait 80 figurants. Le lendemain, on en avait 26. Hein, on les a jamais revus, quoi. Les gars, ils avaient eu tellement froid la première nuit qu'on les a jamais revus. Donc voilà, c'était difficile, mais en même temps, on était tous portés comme ça par une énergie incroyable qui ressemble à l'énergie des personnages du film. C'est très lié. C'est comme le casting, hein. Le casting du film est très hétéroclite. Il y a des humoristes, Alban Ivanov, Bérangère Krief, une actrice comme Michel Bernier, hein, connue pour ses seuls en scène aussi pour la série La Stagiaire. Il y a un grand acteur de théâtre qui joue là un mentaliste hongrois, quoi, hein. Alain Rimoux, qui vient de la troupe de Peter Brook. Il y a ma petite actrice que j'adore, hein. Vous savez, Ariane Arrivoir qui jouait Marie Hortin, donc cette jeune actrice sourde qui fait une magicienne sourde. Il y a un transformiste, véritable transformiste, qui était chez Michou, là, qui fait une merveilleuse Dalida. Et donc, c'était le sujet du film. Mettre ensemble dans un lieu, dans un huis clos, des gens venus d'horizons différents et voir si ça marche. Et aussi bien dans le tournage que dans l'histoire et dans le film, ça marche.
Il y a des scènes drôles alors aussi?
Il y a eu beaucoup de scènes drôles parce que tout de même, Alban Ivanov a vraiment une puissance comique incroyable. Mais souvent, il me le disait quand même sur un registre de l'émotion. Hein. Moi, ce que j'aime dans la comédie, hein, c'est sur ce fil, hein, comme ça, hein, de l'émotion et du rire et du sourire et de l'empathie. Ne jamais se moquer des personnages. Quoi. Ça, c'est mon credo. Hein. Moi, je n'aime pas ça dans la vie. J'aime pas le cynisme. J'aime pas la moquerie. Donc, on est avec eux et on rit ensemble. C'est vrai qu'il y a des scènes, Michel Bernier, absolument craquante, et quand l'hypnotiseur fait dire à l'ouvrier agricole sous hypnose qu'il est amoureux de sa patronne de Michel Bernier, quoi. Les têtes qu'elle fait sont absolument fondantes.
Bon, à découvrir. En tout cas, il faut y faire bien. C'est mercredi au cinéma. On peut aussi retrouver ce que tu sors du coup avec le Covid, 2 films à 1 an d'intervalle. Profession du père qui vient de sortir il y a quelques semaines en DVD et en VOD. Donc vous pouvez aussi aller voir ce très beau film avec Benoît Poulvorde. Tu travailles déjà sur un prochain projet pour la télé, pour le cinéma. Raconte-nous.
J'espère encore faire quelques films. Hein. Des fois, on se dit c'est difficile, hein, toujours. Hein. Mais voilà, moi j'écris toujours plusieurs films en même temps. Mon bonheur, hein, c'est comme les personnages avec leur spectacle. Moi, c'est faire les films, hein, c'est la fabrication, hein, c'est faire les repérages, c'est choisir les acteurs. C'est là quand on a cherché, on a vu 130 fermes jusqu'au jour où on trouve celle que l'on voit dans le film. C'est un moment magnifique, quoi, parce qu'on se dit c'est là, quoi, hein, sur ce grand plateau, cette ferme isolée. Là, on a trouvé quelque chose. Donc, le bonheur, c'est de fabriquer, c'est de faire. Et là, j'ai un film d'écrit qui sera joué par Michel Blanc et Louane, mais qui n'est pas encore totalement sûr.
Donc sur les rangs, en tout cas, on suivra ça. Bien évidemment, avec toi, Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous. Et Folie Fermière, c'est mercredi au cinéma. On va réécouter un petit extrait maintenant et on te dit à très vite.
À très vite, hein, et avec plaisir.
Vous êtes le sosie de Dalida ?
Eh oui, Gigi, c'est moi.
Elle est pas mal, la grande blonde.
Faut vraiment que je te parle. Hein.
De toi.
Ah, vous gueule pas.
Mais je t'engueule pas, je dis ce que je pense.
Est-ce que vous êtes chaud pour le show ?
Voilà, les folies fermières. Et on n'a pas fini d'en parler puisque je vous ai réservé une petite dernière surprise pour continuer à en parler des folies fermières. On a le vrai fermier pour terminer cette spéciale avec nous, David Comette, qui est justement en ligne après avoir parlé de toi, David, avec Jean-Pierre à l'instant. Eh bien, te voilà avec nous en ligne. Bonjour David, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors David, ces folies fermières, c'est évidemment ton histoire, c'est ta vie qui défile devant nos yeux, comme ça, dans ce film, qui sort mercredi au cinéma. Moi, j'aimerais savoir déjà comment t'as réagi quand on t'a proposé, justement, de mettre ta vie comme ça sur grand écran.
Ah ben, au début, c'est très surprenant. Hein. Jean-Pierre était très inspiré des faits réels qui me sont arrivés, c'est-à-dire cette ferme qui était en phase finale, où mes parents étaient en train de commencer à vendre le cheptel, et que j'ai essayé, par tous les moyens possibles et inimaginables, de sauver. Quoi. Donc en fait, il avait compris dès le premier jour le degré de folie qui m'habitait. Quoi, hein.
Et oui, et malgré contre vents et marées, parce que voilà, le film il dure 1h45, mais à la fois, ça a été un parcours semé d'embûches quand même, ce qui t'est arrivé là.
Ah ben depuis le premier jour, hein, je veux dire dès l'instant où parce que malheureusement, comme je l'ai dit, moi j'ai réussi mes études, j'ai fini professeur de mécanique et directeur en lycée agricole d'exploitation. Et en fait, j'avais fait des études parce que pour répondre à ce que me demandaient mes parents, c'est-à-dire voilà, fais des études, sors de la ferme parce que la ferme était devenue un métier mais pas des plus plaisants. Aujourd'hui, ils avaient beaucoup de mal à en vivre. Sauf que moi, depuis tout petit, je veux être agriculteur, je rêve d'être agriculteur parce que mon arrière-grand-père, mon grand-père et même mon père ont toujours fait cette agriculture de polyculture élevage. Donc je comprenais pas pourquoi moi, j'aurais pas le droit de mettre à l'agriculteur. Et en fait, ils m'ont fait bien prendre conscience qu'aujourd'hui, la société a évolué d'une telle façon qu'on est en adéquation en fait avec la société actuelle. Quoi. En tant qu'agriculteur, on ne se sent pas forcément toujours compris. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez un petit peu ce qui arrive autour de vous. On prend un fossé pour un coq qui chante, ouais. Des cloches sur les vaches. Tout ça, en fait, c'était très difficile. Et surtout, d'autant plus que le fait de démissionner de mon poste de directeur en agricole, j'allais diviser mon salaire par deux et multiplier mon temps de travail par deux. Donc, tout l'inverse de la logique. Donc, mes parents ont eu très, très peur au début. Et la preuve, c'est que pendant 6 mois, ils m'ont plus du tout parlé parce qu'ils voulaient vraiment m'empêcher de m'installer agriculteur, quoi. Sauf que bon, malgré la réticence de mes parents, il y a quand même mon grand-père qui, lui, à un moment donné, a tapé un peu du poing sur la table en disant on peut pas l'empêcher de reprendre cette ferme parce que c'est une ferme familiale. Et de toute façon, c'est moi qui l'ai éduqué à David. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné son prénom. C'est lui qui m'a donné mon prénom, je veux dire.
Ouais.
Et un jour, il m'a quand même avoué que le fait qu'il m'ait donné mon prénom, c'était pas par hasard, que s'il m'avait appelé David, c'était pas pour rien. Les Goliaths de l'administration ne devait pas me faire peur, parce qu'il savait très bien où j'étais en train de mettre les pieds, et que j'allais réussir ou pas, il savait pas trop, mais dans tous les cas, il savait très bien que c'était lui qui m'avait formé, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui nous impressionne. Parce que les folies sont les seules choses qu'on regrette jamais, ça c'est ma phrase préférée.
Ah oui.
Vous imaginez bien qu'on a bousculé un petit peu les codes du métier, et tous les codes en général. Hein.
Et puis là, c'est sortir de sa zone de confort, hein, pour le coup.
Ah là, pour le coup, diviser son salaire par deux et multiplier son temps de travail par deux, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Moi, je l'ai fait parce que je suis un amoureux de l'agriculture et qu'aujourd'hui, moi, j'y dois quand même d'être là aussi. Je suis la 4e génération à vivre sur cette ferme. Et surtout, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y a ce problème par rapport à la famille, mais il y a aussi un problème par rapport à ma commune. Je suis le dernier élevage qui reste sur cette commune rurale. Voilà, une commune rurale sans vache, pour moi, il n'y a plus rien de rural là-dedans. Donc en fait, ça relève aussi de l'intérêt général de la commune. Et c'est ça qui a été un peu l'élément déclencheur. Je me suis dit, aujourd'hui, il faut sauver ces vaches, parce que vraiment, par rapport à la famille, par rapport à la commune aussi, et par rapport au fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont encore le droit d'avoir une place dans les communes rurales. Donc il y a un vrai cri d'alarme qui est tiré, et c'est pour ça que dans ce film, comme on pourra en parler, mais ça retrace vraiment mais toutes les zones difficiles du monde agricole qu'on a essayé de surmonter les unes après les autres.
Alors, il paraît que, alors ça on le montre pas dans le film, mais même le maire était contre ces folies fermières, hein.
Ah mais il est toujours, hein. Ils le sont toujours. Nous aujourd'hui, faut s'imaginer que dans la commune, on est dans une commune de 300 habitants. Hein.
Oh là là,
comme
oui.
J'aime à dire, on a plus de poulets dans la ferme qu'il y a d'habitants dans le village. Mais on est vraiment loin, à 30 km de Toulouse. Et aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on a une mairie qui n'accepte pas la diversification de mon activité, parce que derrière, ben, pour eux, l'agriculture, c'est des gens qui cultivent la terre, qui soignent les vaches, mais que voilà, en aucun cas, il faut monter des boutiques de producteurs et encore au moins des cabarets à la ferme. Donc chaque fois qu'on dépose un dossier à la mairie, on est systématiquement rebouté. Et en parallèle, de ce qui est assez contradictoire, c'est que de notre côté, vous voyez, on a passé un concours à la région Occitanie, on a été start-up agricole de la région Occitanie, on a été élu meilleure animation du département du Tarn sur l'année 2019-2020, une reconnaissance qui nous a été remise en main propre du président de l'association des maires du Tarn. Donc c'est tout à fait contradictoire. Mais bon, il y a toujours des réticents de ces personnes qui ne veulent pas voir le métier évoluer et surtout s'adapter aux nouveaux besoins des consommateurs. Parce qu'au final, moi j'ai envie de dire, si j'avais fait beaucoup de choses de mal dans la commune, ça se saurait. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est installé avec ce projet Folie Fermière. En 15 ans, on a créé deux commerces de proximité dans une commune où rien n'existait avant, donc une boutique des producteurs et le premier cabaret à la ferme de France. On a créé pas moins de 15 emplois en 15 ans dans un village de 300 habitants et surtout, grâce aux artistes qui ont compris notre challenge, on a réussi à sauver les dernières vaches de la commune. Donc je pense que je suis pas loin de la vérité quand même. Et malgré ces preuves sur le terrain, et bien après, voilà, eux, ils ont toujours bloqué le projet. Et après, il y a de la jalousie derrière tout ça aussi. Hein. C'est le fait que, comme l'idée ne vient pas d'eux, ou que du moins ça dérange peut-être quelques voisins qui se sentent supérieurs à nous, simples paysans, voilà, ça crée beaucoup de tension. Après, bon, là, l'idée du film, c'était pas aller retracer ce côté négatif.
Ouais.
Nous, on est passé outre. C'est des gens qui veulent pas avoir l'évolution. Aujourd'hui, je pense que le fait de leur présenter un livre qui s'est vendu un peu partout en France, même en Europe, et ce film qui va sortir et qui, à mon avis, va être un très grand succès, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter à ce type de personnes-là.
Ah ben, c'est sûr. Quand tu l'as vu la première fois, toi, monter?
Bon, mais je vous avoue que oui, j'ai versé la larme. J'aime pas trop dire ça parce qu'un agriculteur, ça pleure pas. Mais j'ai versé la larme parce que c'est très émouvant, en fait, que 70% de votre vie qui est retranscrit dans un film. Et en fait, c'était vraiment quel impact va avoir ce film aujourd'hui au niveau du public. Parce qu'en fait, pour faire simple, aujourd'hui, si je dois résumer ma vie en quelques lignes, dans un premier temps, je m'associe avec ma femme, on remet en conformité et aux normes l'exploitation. Je m'associe avec des producteurs, on monte la boutique des producteurs, où c'est qu'aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de producteurs. Maintenant, je m'associe ensuite avec des artistes, on monte le premier cabaret à la ferme de France. Et là, dernièrement, on vient de s'associer avec des acteurs, des réalisateurs, des...
Quand vous entendez ça,
attitude.
Ça marche pour toi.
T'auras qu'à dire, bah c'est la vie.
Ça marche pour toi.
Et ça,
attitude. Attitude, la radio qui rythme votre région.
Lego. I left my life too late till you showed up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover when your eyes got me drunk, I was sober.
Is it true that you love me? I dare you to kiss me with everyone watching.
Dance floor.
La 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 dare you? Is it true that you love me? How dare you to kiss me? How dare you to touch me? It's truth or dare on the dance floor. Dance floor, dance floor, dance, 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 Lego. 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 Lego.
Attitude, attitude, n'écoutez plus rien d'autre, plus rien d'autre.
Que j'ai créé, que j'ai imaginé. Et je m'amuse beaucoup, et les gens apparemment s'amusent beaucoup aussi, donc continuons à nous amuser.
Le public qui vient te voir justement dans tes spectacles, t'es quelqu'un de très drôle dans la vie. Moi, on a partagé plein de moments en festival, et ça tranche justement avec ce personnage de Jeanne Carmin, un peu plus psychorigide, ouais. Un peu plus sévère. C'est une volonté justement d'amener ça, de trancher complètement justement la personne qu'on voit en spectacle et ton personnage dans Plus belle la vie. Ça permet de se défaire aussi.
Oui, 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 bah, une volonté, je sais pas, ça se fait naturellement, en fait. C'est vraiment quelque chose qui vient à moi, l'écriture, les personnages, les blessures, le rire, les larmes, l'attachement, l'émotion. Tout ça, c'est, je le mets, voilà, au cœur d'un personnage, de chaque personnage, et je le fais vivre, et ce que j'aime, c'est le comique dramatique. Voilà. Ça, j'aime beaucoup ce mélange-là, parce qu'on peut aller très loin dans le comique dramatique, On en croise des personnages, des gens qui sont et nous-mêmes. Hein, d'ailleurs, on est à la fois comique, dramatique, voilà. Et je trouve que c'est super de pouvoir l'écrire, de pouvoir le mettre en lumière sur scène et de l'habiller avec des personnages très différents et qui ont tous quelque chose de fort émotionnellement et pas que quoi, dans le rire, dans.
C'est toi
dans
qui écris tout. Quoi.
Oui, ouais. D'ailleurs, je suis en réécriture là parce que je suis. J'aime bien changer.
Mettre à jour un peu de temps en temps.
Oui, va mettre à jour. Ouais, puis moi je suis quelqu'un qui j'ai un petit défaut, je me lasse assez vite.
Ouais.
Et du coup j'ai besoin de. Des fois je dis non mais ça c'est.
Quand vous entendez ça,
ça vient à une image, à une rencontre et c'est génial, c'est génial.
Bon, en tout cas, on te retrouve le 27 et 28 mai pour te voir sur scène à la BD Comédie d'Angoulême. Réservez vite vos places maintenant, ça va partir très vite, Julie. Et puis nous, on sera là, évidemment, pour t'applaudir dès le premier soir, pour venir te voir en spectacle,
évidemment.
Un mot sur Plus belle la vie.
Je te garde une place, alors.
J'espère, bah oui, hein, c'est clair. Hein. Alors, un mot sur Plus belle la vie, évidemment. L'attente qui était interminable a eu son issue jeudi dernier, puisque France Télévisions est venue vous annoncer en studio que France Télé mettait fin à la série. J'imagine le coup dur pour tout le monde, pour les équipes, les comédiens, et un coup dur évidemment pour les fans aussi de la série qui sont très tristes aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Bah oui, un coup dur pour tout le monde, pour les comédiens, pour la technique, pour toutes les équipes, pour tous les gens qui ont fédéré Plus belle la vie depuis 18 ans maintenant, et puis évidemment les fans et on s'y attendait un peu, mais c'est vrai qu'on avait toujours ce petit espoir de se dire peut-être que, bon, bah là, France Télévisions est venue nous voir, nous rendre visite dans le Mistral, et puis bon, bah, pour nous dire que voilà, c'était la fin de plus belle. Donc c'est vrai que c'est bizarre. C'est comme, il y a comme un deuil, je pense, pour les fans et pour nous aussi, parce que pour ma part, j'ai accompagné cette série pendant 10 ans. On tourne pas une page, on change de livre en fait. Parce que 18 ans, c'est quand même un morceau de vie et on s'en parle entre nous et voilà quoi. C'est bizarre là, France Télé. Quand ils sont venus jeudi, on avait des séquences derrière et The Show Must Go On. Donc on y va.
C'est ça le plus dur.
Et oui oui. Mais en même temps, on est content. On est content encore de pouvoir apprécier et puis de se dire on est encore là, on sait que c'est la fin, mais profitons et donnons le meilleur aussi pour terminer en feu d'artifice pour évidemment les fidèles et puis pour nous et puis pour les équipes et puis pour tout cet amour qu'on a entre nous, ce respect et cette joie de travailler ensemble, ce collectif quoi, c'était quand même quelque chose de formidable, d'exceptionnel quoi. 18 ans une série, on a eu cette chance de pouvoir contribuer à ce succès et de pouvoir apprendre, de pouvoir travailler, de pouvoir c'est merci quoi. Merci à Plus Belle la Vie, merci à tous ceux qui ont fait que cette série existe jusqu'à encore aujourd'hui.
Alors tu sais, on me dit toujours que l'espoir fait vivre et Vincent Mestay, qui est quand même le producteur de la série maintenant, a quand même laissé un espoir. Vous avez quasiment 130 épisodes encore à mettre en boîte puisque la série s'arrêtera le 18 novembre sur France 3. Ouais. La date est tombée officielle. On peut imaginer, en tout cas déjà France 3 aurait déjà commandé un spin-off qui pourrait être régulier pour le prime time, mais on pourrait imaginer Plus Belle la Vie revenir sur notre chaîne parce qu'il faut pas oublier que la production du UN fait partie du groupe TF1 et que Xavier Gandon, le directeur de programme, il y a un mois s'était montré plutôt intéressé par la série dans le cas France Télévisions la laisserait, et en plus tous les droits de la série ont été laissés à Newen. Alors ça laisse quand même un espoir, même si je veux pas donner de faux espoirs aux fans, mais ça donne quand même un espoir peut-être aux équipes, aux comédiens et à nous fans, peut-être que finalement la série ne s'arrête pas.
Non, bien sûr, tout est possible et on peut retrouver peut-être, on aura peut-être cette chance de retrouver la série sur une autre plateforme avec d'autres distributeurs. Maintenant, ce qui est certain, c'est que Plus Belle la Vie en quotidienne avec France Télévisions, c'est terminé.
C'est fini. Ça, c'est une certitude. Et puis, on vous tiendra au courant et évidemment au fur et à mesure des avancées des négociations.
Plein de belles choses qui vont arriver. Hein.
Et puis, y a un beau prime time qui va arriver en juillet. Il y en aura un autre pour clôturer. Ça va y aller, oui.
C'est clair. Effectivement, c'est jusqu'au 18 novembre, donc il y aura certainement un deuxième prime. Le dernier aussi, voilà, il y a encore plein de surprises, heureusement.
Et oui, et en attendant, la belle surprise c'est 27 et 28 mai, c'est la BD Comédie d'Angoulême que ça va se passer, puisque tu seras en spectacle. Merci infiniment Stéphanie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour aussi réagir sur l'arrêt de cette série. Et puis on te dit à très bientôt.
Merci beaucoup et à très vite, merci.
On t'embrasse, à très vite.
Au revoir.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui dans les salles mercredi, ça s'appelle On sourit pour la photo. Le réalisateur est avec nous, François Usan. Bonjour François.
Bonjour.
Et le producteur également est avec nous, Anthony Lancré. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Dans un instant, on a un binôme de garçons et dans un instant, on sera rejoint par un binôme de filles, Pascal Arbillot et Agnès également. Nous rejoindrons toutes les deux qui jouent la fille de Pascal Arbillot dans le film. Nous rejoindrons dans quelques instants pour parler aussi des comédiennes, des formidables comédiens qu'il y a dans ce film. C'est un film qu'on a pu voir, nous, à l'Alpe d'Huez, il y a maintenant quelques semaines. Quel bonheur on a eu de voir ce film, de passer une heure et demie un peu dans ce cocon de rire, parce qu'on rit, on rit de bon cœur. C'est très rythmé, moi j'ai trouvé. Et c'est ton premier film, François?
Oui, c'est mon premier long métrage. Et en fait, il y avait en amont de ça un court métrage qui déjà parlait de cette famille, parlait de cet univers, présentait un peu mon univers, et qui était déjà là à l'Alpe d'Huez il y a 5 ans. Avec Anthony, on s'était un peu promis, enfin on s'était promis, on avait rêvé de revenir avec le long, et on est revenu 5 ans après, donc c'est une belle histoire.
C'est une histoire d'amitié, Anthony, qui produit, du coup, qui avait produit le court-métrage. Déjà, à l'époque, c'était là qu'on s'était rencontré d'ailleurs, Anthony. Qu'est-ce qui t'a fait y aller tout de suite sur ce projet?
Pour la petite histoire, François la raconte mieux, mais un jour il est venu, on parlait d'autres projets, et un jour il était très tendu, un lundi matin. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, écoute, j'ai fait une connerie. J'ai fait la connerie d'accepter de repartir en vacances avec mes parents. Et du coup, je me suis rendu compte que quand on repart en vacances avec ses parents, on redevient un enfant. Et à ce moment-là, bah, au lieu d'être un bon copain qui l'écoutait plus, je lui ai dit, mais...
Faut faire un film.
Faut en faire un film. Exactement. Et après, en même pas 10 ans, on l'a fait. Et au début, François devait juste écrire le film. Et c'était tellement bien écrit, tellement drôle. Et la façon dont il mimait chaque personnage, qui, comme il l'a dit, ont toutes les qualités de ses parents et tous ses défauts à lui, que je lui ai dit, mais mec, il n'y a qu'une seule personne qui peut réaliser ce film. C'est toi.
Il y a beaucoup d'inspiration personnelle là, François.
Oui, encore une fois, c'est je me suis inspiré d'une tendresse, d'heures passées à l'arrière d'une voiture en vacances avec mes parents. C'est d'autres personnages, c'est une autre histoire. Hein, c'est ce que je veux dire, c'est pas totalement autobiographique, mais j'ai essayé de faire baigner une histoire nouvelle dans toute la tendresse, toutes les engueulades avec ma sœur, toutes les chamailleries, tous ces moments où on a le premier dîner en famille, le soir on arrive en vacances, le stop douche, les après-midi sur la plage. Voilà, c'est pas autobiographique, mais la tendresse qui entoure cette histoire, l'émotion et puis ce soleil qui est celui de mes vacances quand j'avais 10 ou 12 ans, ça oui, ça vient du cœur quoi.
Le choix après Jacques Gamblin, Pascal Arbillot, Ludovic, Agnès, Pablo qui sont incroyables, franchement tous les personnages ont vraiment leur place. Quand Jacques Gamblin et Pascal Arbillot disent oui à un premier projet comme ça, j'imagine la fierté que ça doit être.
C'est de la fierté, c'est une responsabilité aussi. À partir du moment où eux ont dit oui, je me suis dit il faut que je réécrive encore des choses sur ce scénario, parce que Jacques a amené une poésie qui n'appartient qu'à lui, Pascal a amené une énergie, un second degré, une tendresse aussi qui n'appartient qu'à elle. Donc c'était pas du prêt-à-porter, ce scénario, c'est du sur-mesure pour ce couple qui est vraiment unique. Donc il y avait un scénario qu'on aimait bien, mais leur arrivée a sublimé le scénario. On a beaucoup parlé du scénario avec Jacques et Pascal, ils ont fait plein de suggestions, ils se sont vraiment appropriés les personnages. Donc voilà, c'est une chance de les avoir, et c'est pas uniquement une chance parce que ce sont Jacques Gamblin et Pascal Arbillot, c'est parce que grâce à eux, le scénario a été meilleur et donc le film est meilleur.
Le choix de la Grèce, ça vient de qui ça?
Ça vient de notre coproducteur Radar, Clément Miseret. Pour ne pas trahir un secret, au début ça se passait en Italie. Et c'est marrant, mais à un moment on s'est dit, après avoir fait quelques versions, on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'il y a comme pays qui ont vraiment changé en 20 ans? Bah, on s'est dit la Grèce, qui aujourd'hui est hyper festive et compagnie, mais qui, du temps de nos voyages avec nos parents, il y a une trentaine d'années, était plus pittoresque, plus typique, et on a voulu amener cette dose de nostalgie là-dessus.
Alors avant que les comédiennes arrivent, on va planter le décor quand même un petit peu, François. On est sur l'histoire du personnage de Jacques Gamblin qui prend des photos, qui ne pense plus qu'à ranger ses albums photos, jusqu'au jour où sa femme va en avoir marre et va lui dire « je me casse ». Et donc il va décider de lui faire revivre en fait ses vacances d'il y a 20 ans pour tenter de la reconquérir. C'est pas gagné. Et c'est toute l'aventure, parce que bien sûr ses vacances vont devoir se repasser exactement pareil qu'il y a 20 ans avec les enfants, toute la famille, etc. Plus plein de surprises qui vont arriver parce que ça ne se passe jamais comme prévu. Autrement, il n'y aurait pas de film, ça s'ennuie.
Exactement. C'est ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était le côté être amoureux de ses souvenirs. On dit souvent les souvenirs, c'est le seul paradis dont personne vous chassera jamais. Et effectivement, Jacques Gamblin, le personnage de Jacques, se réfugie dans ses souvenirs et il regarde derrière et il n'y a aucun mal à ça. Mais il oublie de regarder devant aussi. Donc le film est en permanence entre ces deux choses-là. Il faut sanctifier, aimer le passé, mais le présent est formidable et le futur demande qu'à l'être. Et c'est ça que raconte le film.
Ouais, c'est ça qui est chouette. Alors le film a eu quelques avant-premières évidemment, parce que là on arrive sur la sortie. Il y a eu une projection incroyable à l'Alpe d'Huez. Moi j'y étais avec tout le monde debout à la fin, des applaudissements qui n'en finissaient pas. Ça a dû être hyper émouvant de vivre ce moment-là, parce que franchement moi j'étais dans la salle, j'ai ressenti vraiment mais que le public était complètement conquis quoi.
Oui, c'est très émouvant. C'est d'autant plus émouvant quand vous pensez à ce moment-là tous les matins dans votre salle de bain depuis 11 ans et que vous vous dites comment ça va se passer. Et on imagine plein de scénarios, on imagine un scénario où les gens s'en vont au milieu, on imagine un scénario où les gens aiment le film. Et puis non, c'est jamais comme on s'attend. Et puis cette projection était magique, parce que au-delà de la réaction des professionnels, c'est vrai que c'est la magie aussi du Festival de l'Alpe d'Huez. Il y a des gens qui sont pas professionnels, qui viennent juste se distraire, regarder un film, et c'est leur réaction qui était extrêmement touchante. Je les sentais aussi touchés, et aussi touchés que moi je l'étais, aussi touchés que j'espère mes parents le seront quand ils verront. Et donc c'était infiniment précieux, cette réaction du public, j'ai adoré.
Et du rire, on va en parler avec Pascal et avec Agnès qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Dernière question, François, est-ce qu'il y a un souvenir particulier que tu aurais à nous raconter sur le tournage? Il y a dû y avoir des moments de rire, même si on sait que la comédie c'est très pointu, faut être très concentré, c'est beaucoup de travail, mais il y a dû y avoir des moments quand même de détente aussi, de rigolade.
rigolade?
Oui, il y avait des moments de rigolade, de détente. Je me suis pas beaucoup détendu. Je vais être tout à fait honnête. J'étais en mission. J'avais beaucoup attendu pour faire ce film. Les plus beaux moments, c'est ces moments magiques où vous fantasmez une scène. Quand vous écrivez un scénario, vous rêvez une scène. Et à partir du moment où elle est tournée, ça devient un souvenir. Donc c'est ce moment pile où vous vous rendez compte que le souvenir que vous venez de créer est plus beau que le rêve que vous avez fait. C'est arrivé sur plein de scènes où je les avais imaginées de mille façons. Et grâce à Pascal, grâce à Jacques, grâce à Agnès, grâce à Pablo et grâce à Ludovic, le rêve que j'avais fait, bah ils ont réussi à en faire quelque chose d'encore mieux. Donc c'était tous ces matins, parce qu'on tournait beaucoup de nuit, tous ces matins où je rentrais crevé à 5h ou 6h et où je me refaisais la scène dans ma tête et je me disais, je viens de me créer un beau souvenir. Et ça, c'était le plus magique.
Retenez bien le nom du film, on va en entendre parler, je peux vous dire, dans les semaines qui viennent, j'en suis sûr, parce que ça sort mercredi dans les salles. Ça s'appelle On sourit pour la photo. C'est le premier film de François Usan, un vrai bijou, que je vous conseille dans les salles mercredi. On a besoin de rire tous ensemble. Voilà, merci François.
Merci beaucoup.
Merci Anthony.
Merci beaucoup.
On écoute la bande-annonce et on se retrouve juste après avec Pascal Arbillot et Agnès Hurstel qui seront avec nous et qui nous rejoignent dans un instant.
Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille.
Athènes?
On part en vacances. On se refait Grèce 98, si on veut pas.
C'est hyper gentil papa, mais ça va être compliqué pour nous.
Je sais pas si vous le savez Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez droit à pas mal de réductions.
Si tu viens, je te file 1000 euros et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter non? 1005. Dernier prix.
C'est quoi les dates?
Ce n'est pas un voyage, monsieur. C'est une reconquête.
Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah.
Bouge pas. Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
La touche masculine du film On sourit pour la photo, et eh bien c'est la touche féminine qui vient nous rejoindre avec Pascal Arbillot qui est avec nous, qui joue le rôle de Claire. Oui. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et Agnès Hurstel également qui joue le rôle de Karine, Rinette, enfin je sais pas, tu vas nous dire tous les surnoms qu'on te donne dans le film. Bonjour Agnès.
Bonjour. Sur le tournage, il m'a appelé Karim.
Ouais, d'accord, OK. C'était le bizutage un petit peu de leur premier film en plus du premier film de François.
Ouais, exactement, voilà.
Bon, on a planté un petit peu le décor de cette histoire. Alors, je le disais, on a vu le film à Alpe d'Huez il y a quelques semaines maintenant. L'accueil a été triomphal pour ce film. Vraiment, vous allez en entendre parler. Ouais, ça a été vraiment un gros coup de cœur à l'Alpe. Mais quand on reçoit un scénario comme celui-là et qu'on voit le rendu après, Pascal, qu'est-ce que ça donne?
Bah, c'est ça qui est bouleversant, c'est que ce qu'on a imaginé, ce qu'on a lu, ce qu'on a tourné, et quand tout d'un coup, on se rend compte que non seulement c'est encore mieux, que le metteur en scène à côté de vous est bouleversé par l'accueil du public, et quand on se rend compte qu'on partage la même émotion mais quasiment intacte à quasiment chaque séquence, c'est-à-dire qu'on le public était je sais pas, on était entouré, c'était les réactions étaient permanentes. C'est très rare d'avoir c'est ce qu'on cherche, de façon de partager absolument une œuvre. C'est très très rare, ça arrive très peu dans une vie, et là c'est ce qu'on a senti. C'est extraordinaire de voir l'accueil après, les gens qui ont besoin de vous parler, qui ont besoin de vous toucher, qui ont besoin de parler d'eux. C'est extraordinaire, parce que le sujet est un sujet très profond, sur la famille, sur le temps qui passe, sur la relation entre les parents et les enfants quand ils vieillissent. C'est magnifique. Magnifique.
Il y a un message fort, mine de rien, même si on rigole beaucoup dans le film, il y a aussi ce message qui dit profitez du présent, profitez du futur qui s'ouvre à vous, ne pas penser qu'au passé, même si le passé reste important, c'est lui qui nous construit. Comment on réagit quand on reçoit un scénario, toi aussi Agnès, là-dessus? Quand on reçoit un scénario comme celui-là.
Surtout que c'est très différent dans nos deux niveaux de carrière, je pense que c'est pas tout la même chose. Moi, je reçois ce scénario il y a 2 ans, mais je le trouve hyper bien écrit, je suis hyper dure en comédie. Moi-même, j'essaie d'écrire des comédies, c'est hyper rare de tomber sur quelque chose où les rôles féminins ne sont pas caricaturaux, potaches, vulgaires, avilissants, nymphos, bêtes et infirmières. Et tout à coup, tu tombes sur ce scénar et enfin, j'étais en confinement. C'était hiver, printemps 2020. Et tu fais tout pour l'avoir, en fait. Tu fais des tapes, tu fais des zooms avec le réal. Ensuite, en déconfinement, t'as un casting avec Jacques Gamblin et tu sens qu'il donne son avis. J'ai passé 3 rounds. J'ai jamais été aussi motivée pour me battre et pour avoir un rôle. Voilà ce qu'on fait quand on a un scénario pareil. On sait exactement... Enfin, je sais pas. Je savais que ce serait exactement aussi bien.
Comment on pourrait définir Claire?
Oh, c'est une femme qui n'arrive pas à continuer à vivre dans ces conditions-là. Elle est droite, elle aime ses enfants, mais elle veut pas s'arrêter de vivre. Justement, elle veut pas être dans le passé. Et son mari est obsédé par le passé. Il collectionne. Elle veut pas forcer. Elle part pas pour un autre.
Non, elle est juste au bout du rouleau.
Elle se dit, on peut pas continuer comme ça. C'est pas une vie. C'est pas possible. C'est le mensonge. C'est pathétique. On n'a pas, quand on a aimé quelqu'un autant, on peut pas continuer une forme de mascarade. Hein, donc elle préfère partir. Et je pense que c'est un crève-cœur pour elle, mais elle le préfère. Voilà. Il se trouve qu'il lui demande une dernière chose avant de se séparer, c'est de refaire des vacances d'il y a 20 ans. Et Claire, pour elle, c'est aussi une façon de retrouver ses enfants qu'elle voit pas. Regardez, pendant le confinement, quand moi je me suis retrouvée avec mon fils, même il est plus jeune. Mais même, je le vois, moi, je le vois le soir, mon fils, je le vois le soir en rentrant de l'école, ça va, ouais, ça va, alors, il va dans sa chambre et c'est terminé. Là, il était 16h, il disait, tu veux faire un Cluedo? Oh oui, tiens, on fait un Cluedo. Ça parle de ça aussi, de les liens familiaux qui se distendent de fait. On s'éloigne, et heureusement, on doit s'envoler tous. Mais comment est-ce qu'on, en même temps, c'est de là, on vient de là. C'est nos gènes, c'est notre passé, c'est notre mémoire, c'est qui on est. Donc comment avancer sans trahir le passé et Claire, je pense qu'elle est quand même très droit et qui est traversée de choses contradictoires, mais je la trouve j'aime beaucoup ce personnage, je l'aime beaucoup.
Et comment on pourrait définir justement Karine du coup?
Karine, c'est une jeune femme super rigide à la base, sur des rails, qui est avec un fiancé qui ressemble beaucoup à son père. Qui va là-bas un peu malgré elle et parce qu'elle est loin et parce que l'éloignement ça aide à ça aussi, le voyage ça aide à ça, un peu sortir de, enfin découvrir autre chose et lâcher prise un peu et respirer.
Ah bah, lâcher prise, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, après c'est pas fou non plus, je veux dire. Mais finalement elle l'aime ce mec et en fait il est sexuellement c'est génial, et il se marre et évidemment qu'elle a envie d'être avec lui, juste elle a pas envie qu'on la demande en mariage.
Et aussi peut-être que quelque part, effectivement, il ressemble à ton père et tu le sens.
Ah ouais.
C'est ça qui est beau dans le film. J'adore. Et que le père, à la fin, se dit, mais merde, il est ce genre que je déteste, qui m'énerve, c'est moi. C'est magnifique, c'est magnifique.
Ouais.
C'est magnifique.
Il y a une scène drôle qui restera gravée à jamais, que vous avez tournée tous ensemble. J'imagine que c'est une scène un peu collégiale.
Vous parlez de l'hôpital?
Par exemple.
Mais la scène de l'hôpital, ça marche trop bien, ouais. C'est hyper drôle.
Elle marche très bien.
Pareil pour toi, Pascal. C'est scène hôpital du restaurant, c'est avec elle qui reste.
Bizarrement, c'est pas celle qui a été le plus facile à tourner. Parce qu'il y avait parce qu'il y avait tellement de personnages, de trucs, d'arrivées, d'entrées, de machins, de surprises. C'était très bien écrit, mais très, c'est plutôt compliqué à filmer. Il faut plein de plans, on reprend. Non, moi, j'ai des souvenirs, de restaurants, de la danse, même de la danse avec Jacques. Pour moi, c'était une tranche de vie, ce film. Une vraie tranche de vie pour beaucoup de gens. Ça a été une tranche de vie énorme. Tant un peu, n'importe quel tournage, ça a duré 2 mois, mais ça a été assez fondateur pour plein de gens. Plein.
Ça se ressent, hein. Ça se ressent, nous aussi, hein, cette alchimie que vous avez eue tous ensemble. Nous, on la ressent aussi à travers l'écran, ça se transperce, quoi. C'est vraiment, vous nous embarquez pendant 1h30 à jamais vous lâchez le spectateur. Et ça, c'est rare dans un film de jamais lâcher les spectateurs et d'être tout le temps avec eux.
Très grand scénario c'est travaillé. C'est super bien écrit.
Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Donc vraiment, voilà, je dis encore un grand bravo à toute l'équipe, à tous ceux qui vous entourent, à Pablo Poli, qui est juste incroyable, qui est dément, à Ludovic aussi.
Génial. Moi, je voudrais tellement faire partie de cette famille. J'ai envie de partir en vacances avec vous.
Génial.
Oh, on a envie d'en refaire.
Ouais. Il y avait une suite. Vous aimeriez?
Ah oui. Ah bah alors là.
Ah oui.
Oui. Oh putain, non, ce serait tellement génial.
Ouais. Oui, parce qu'il y aurait du mariage à célébrer, je sais pas. Et puis, on imagine bien Jacques Gamblin avec son appareil photo sans arrêt. Il en aura peut-être un autre, je sais pas, on verra ce qui se passera. Mais il y a bien des choses qui peuvent se passer.
Je suis un peu jaloux si Jacques Gamblin est avec une nana dans le prochain. Ça va me faire de la peine, c'est bien.
Non, mais c'est les enfants qui doivent se marier. C'est les enfants qui a marié.
Bah voilà, c'est ça. Très bien. Ah, c'est Antoine, le 12 d'Antoine, toi. Moi, je signe demain. Les yeux fermés.
Bon, les projets pour 2022, à part On sourit pour la photo, est-ce qu'il y a d'autres films, séries, télé, télévision, théâtre? Qu'est-ce qui vous attend? Dites-moi.
Si, j'ai le film de Jérôme Commandeur, Irréductible, qui sort fin juin.
Le 29 juin, oui.
Voilà.
C'est déjà bien. Et pour toi
Moi, il y a le film de Michel Hazanavicius qui sort. Il y a celui de Tristan Seguela aussi, qui s'appelle Un homme heureux, qui sort bientôt. Et la saison 2 de ma série Jeune Égolerie qu'on tourne là en septembre.
Pour OCS.
Pour OCS. Ouais.
Trop bien.
Et un autre projet de série que j'écris. Et puis je viens de finir de tourner dans la série de Cédric Lapiche, la suite de L'Auberge espagnole, Salade grecque. Donc ça sort bientôt aussi.
Merci Agnès, merci Pascal d'avoir terminé cette spéciale On sourit pour la photo avec nous. Et on va terminer par une photo quand même, hein. Et par contre, alors juste Agnès, quand même, en partant du studio, fais attention à la vitre. Ceux qui vont voir le film mercredi, ils comprendront. C'était notre spéciale On sourit pour la photo, on se quitte avec un extrait.
Moi, ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Et là, on joue la comédie de la famille unie, c'est ridicule. Cyril, qu'est-ce que tu fais, là?
Je profite. On est séparés, non? Madame, je passe après, monsieur. Next.
Surprise!
Oh, putain. Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. Ça s'en fout.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ça sera une spéciale J'adore ce que vous faites. Artus, Philippe Guillard et Antoine Bertrand seront nos invités exceptionnels. On parlera également de La Faute à Rousseau, le retour de votre série sur France 2, avec justement Lou Gauthier, la productrice, mais également le réalisateur Octave Raspail et le héros, justement Charlie Dupont. Nous parlerons également de la Doc Helvéto, deuxième épisode, Michel Simès, Dunia Cossins, Christian Gérin, le producteur et Thierry Binisti, le réalisateur. Toute l'équipe sera avec nous pour le grand retour également de cette série. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 17 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.